Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, Médecins sans frontières, MSF, a assisté récemment des milliers de déplacés autour de la ville de Goma et enfoui les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui les représentants de MSF en RDC au cours d'un échange avec la presse ici à Kinshasa. Les femmes de la ville de Bukavu, dotées d'un auditorium pour mener à bien leurs activités quotidiennes, l'ouvrage a été mis en œuvre par la coopération technique allemande, GIZ, avec le fonds de la coopération suisse à travers le programme d'appui à la santé. Notre invité, c'est Pacifique Keta Oupar. Cet opérateur économique de la province de l'Ituri affirme que plus de 2000 tonnes de café produits à Mahagi et à Djougou sortent quotidiennement du pays frauduleusement pour l'Ouganda. Il pense que c'est la conséquence du manque d'une unité de traitement et de transformation du café dans cette région. Madame, Messieurs, bonsoir. Au terme d'une mission effectuée à Goma au Nord Kivu, le représentant pays de Médecins Sans Frontières a organisé un café de presse jeudi ici à Kinshasa. L'échange d'Emmanuel Lampert a porté notamment sur les combats ayant provoqué le déplacement massif des habitants et l'assistance offerte par MSF dans différents sites de déplacés autour de la ville de Goma. Le compte-rendu de Jeff Opela.
Les conditions des vies précaires des déplacés de Goma en eau, hygiène, abri et nourriture ont fait l'objet d'une consternation de cette balade des santé du représentant pays des MSF. Après son témoignage choquant, il fait appel au devoir des présences et réponses à la hauteur des besoins et à la protection et sécurité des patients et des vulnérables. Emmanuel Lampard.
Je crois pour l'ensemble des acteurs, les deux messages clés, c'est il faut être présent et il faut mobiliser cette réponse. Oui. En priorisant, oui, en faisant des choix, oui, on peut en appeler à plus de moyens. Je crois clairement aujourd'hui, il faut avoir comme objectif que aussi les nouvelles vagues puissent bénéficier des standards minimums en termes de réponse lors d'un déplacement interne. Deux, c'est un clair appel non seulement à une mobilisation, mais à un langage clair et ferme pour la protection des civils plus vulnérables déplacés. La situation vous décrite aux abords des camps et dans les camps, je crois, est clair en termes d'argumentation pour cet appel.
Médecins sans frontières promet d'être toujours présent au chevet de ces personnes vulnérables.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, des milliers de déplacés affluent depuis deux jours à Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero. Ils fuient les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans plusieurs localités du territoire voisin de Rutshuru. Ils vivent actuellement dans des conditions extrêmement difficiles. Pour en parler, Martial Papi Mukeba nous appelle de Béni.
Ces déplacés, en majorité des enfants et des femmes, dont certaines sont enceintes, fuient Kirima, Somikivu, Bwalanda, Kibingu et Kibirizi. Ces localités du territoire de Rutshuru sont les théâtres des violents affrontements depuis 4 jours entre les FARDC et les rebelles du M23. Certains d'entre eux parcourent plusieurs kilomètres à pied en traversant les parcs nationaux de Virunga avant d'atteindre Kanyabayonga. Sur place, ils vivent dans des conditions déplorables. Kavalizawa dit de l'organisation locale, groupe de volontaires pour la promotion de la paix témoigne.
Beaucoup de personnes sont exposées aux intempéries. Hier, nous avons constaté même la mort d'un enfant. Comme à Kanyabayonga, nous n'avons pas aucune suite pour recevoir toute la population là. Il y a beaucoup de populations qui sont en train de dormir dans des marchés, dans des hangars. Alors la situation est déplorable.
Les autorités locales disent craindre un débordement de la situation humanitaire à Kanyabayonga qui comptait déjà plus de 10 000 ménages de déplacés. Cette commune ne dispose pas également d'un réseau d'addiction d'eau potable et certaines structures sanitaires locales qui reçoivent des déplacés malades, dont des femmes enceintes, ont des difficultés de fonctionnement faute des médicaments. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nord Kivu, encore les affrontements entre les FARDC et le M23 se sont poursuivis ce jeudi dans la chefferie de Bwito. Dans leur avancée, ces rebelles ont occupé hier soir les agglomérations des Kikuku et de Kibirizi où la situation est tendue. Du coup, des villages voisins se sont vidés de leurs habitants. Explication de Bernard Nenyangi.
Dans la matinée ce jeudi, des tirs nourris ont été entendus dans et autour du village de Kibirizi, indiquent plusieurs sources locales. Ils estiment qu'il s'agirait des opérations de ratissage menées par les rebelles du M23 qui occupent l'agglomération depuis hier soir, à l'issue d'un violent combat contre l'armée congolaise et les groupes armés locaux. Les mêmes sources parlent d'une menace devenue de plus en plus perceptible sur la Rwindi, environ 20 km de Kibirizi, encore contrôlée par l'armée congolaise. Elles ajoutent par ailleurs que Kikuku, le chef-lieu de la chefferie de Bwito, est aussi passé sous occupation des rebelles du 1-23, toujours hier mercredi, inquiétant de plus en plus les villages situés le long de l'axe Kikuku-Kiala-Kanyabayonga. Depuis la reprise des combats dans la zone, ce sont plusieurs agglomérations du groupement Mutanda qui viennent de passer sous occupation des rebelles. Ces agglomérations allant de Nyanzale jusqu'à Kibirizi, passant par Kikuku, Bwalanda et la cité minière de pyrochlore de Somikivu, sont vidées de leurs habitants à près de 90%. Quelques-uns des civils qui restent toutefois dans la zone disent être très déçus de cette évolution de la situation en faveur des rebelles. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Autre nouvelle en plus bref, la ministre belge des Affaires étrangères dénonce la guerre qui sévit actuellement dans l'est de la RDC et son impact sur les populations civiles. Sur son compte X, Madame Hadja Labib appelle les rebelles du M23 à cesser immédiatement les hostilités et le Rwanda à mettre fin à tout son soutien en ces rebelles. La ministre insiste sur le fait que les soldats rwandais doivent se retirer de la RDC. Retour au calme ce jeudi à Nyawaranga, groupement de Bijumbo dans le haut plateau du territoire d'Uvira au sud Kivu, où une attaque d'hier contre une patrouille mixte des FARDC FDB a fait 3 morts et 2 blessés graves. Des sources militaires attribuent cette attaque aux miliciens Twigwaneho et leurs alliés. Revenons au sud Kivu où un auditorium a été remis hier après-midi aux femmes de la ville de Bukavu. L'ouvrage a été construit par la coopération technique allemande GIZ avec le fonds de la coopération suisse à travers le programme d'appui à la santé. À Bukavu, la correspondance de Rachel Kessembangu.
Situé à La Botte dans la commune d'Ibanda, ce bâtiment, c'est donc une salle de réunion des rencontres des femmes et associations des femmes avec une capacité d'accueillir 300 personnes. Cet espace permet aux femmes de discuter de leurs droits, comme l'affirme Jacqueline Nguengele, chef de la division provinciale du genre.
C'est un lieu où les femmes vont se réunir pour discuter, échanger, partager toutes les informations sur leurs droits, sur leur vie au quotidien. Au fait, c'est depuis 2010, lors de la commémoration de la Marche mondiale de la femme, que la province du Sud Kivu avait désaffecté cette parcelle. Et c'est l'ancienne ministre Marie-Ange Lukiana qui avait posé la première pierre.
Cet espace représente une opportunité car les femmes ne vont plus chercher où se réunir. Thérèse Mema, directrice du centre Olamé de Bukavu.
Pour nous, c'est une opportunité parce que désormais, les femmes ne vont plus chercher où se rencontrer. Parce que c'était un besoin, on devait avoir une maison de la femme pour se rencontrer, non seulement pour discuter, mais aussi pour partager l'expérience, mais aussi pour apprendre.
Le gouverneur intérimaire qui a remis cet édifice appelle les femmes à gérer ce bâtiment et tous les matériels en bon responsable. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, l'usine Plastico do Sol appartenant au groupe Congo Futur, située sur la 12e rue à Limété, a pris feu hier sous le regard impuissant de ses responsables. Les bilans font état d'importants dégâts matériels. Ce jeudi matin, il y avait encore du feu. Quelques maisons voisines sont également touchés. Babel Pongo-Massimango et Greta Lulendo étaient sous les lieux. Voici leur récit.
Ce jeudi matin, travailleurs et responsables de l'usine se sont retrouvés sur le lieu du sinistre pour constater les dégâts causés par l'incendie. Certains y ont passé la nuit. Ils s'affairent à dégager les entrepôts pour récupérer quelques objets encore en bon état. L'essentiel est parti en fumée.
Nous avons tout perdu dans l'usine, nous n'avons pu récupérer que quelques machines. Tout ce qui nous reste, ce sont les objets qu'on garde dehors pour vendre aux clients. Nous attendons que le chef nous dise un mot.
Selon les témoignages recueillis sur place, tout a commencé par une étincelle de feu qui s'est échappée lors d'un travail d'ajustage dans un entrepôt.
L'usine a pris feu à partir de l'entrepôt. Les machines, les colorants et les matières ont brûlé. C'est ce qui a intensifié le feu.
C'est jeudi, une fumée épaisse s'en dégage encore. Préoccupés, les travailleurs lancent un SOS au gouvernement, car c'est cette usine qui leur permet de nourrir leur famille.
Cette situation nous perturbe. Pour le moment, nous sommes au chômage parce qu'on ne sait quoi faire. Cette usine, c'est notre gagne-pain. Nous demandons l'assistance de l'État qui fasse une descente sur place. Nous n'avons pas d'autre travail.
Notons que cette usine emploie plus de 600 personnes, dont des journaliers.
Dans un autre chapitre, au Tanganyika, les conseillers communaux de la ville de Kalemie travaillent actuellement dans des conditions précaires. Ils l'ont dit hier à l'occasion de la validation de leur mandat. Ils demandent par conséquent à leur hiérarchie de trouver une solution rapide à cette préoccupation. Reportage à Kalemie de Paul Mounanga.
Les membres du bureau provisoire du conseil communal de la commune de Kalemie et les autres conseillers travaillent tous dans un petit bureau qui est situé à la commune. Cette personne se partage deux tâches et sont obligés de se mettre face à face, faute de l'espace. Les conseillers communaux annoncent qu'ils se débrouillent pour l'achat des fournitures des bureaux. Le président du bureau provisoire du conseil communal de la commune de Kalemie espère que les autorités au niveau national et provincial vont améliorer leurs conditions de travail. Elie Ilunga Jobeloa.
Nous n'avons pas encore de fournitures de bureaux. On n'a pas assez de moyens pour bien fonctionner, mais je crois qu'avec le temps, on aura peut-être affaire avec l'aide du gouvernement national et du gouvernement aussi provincial. Bon, nous nous débrouillons parce que nous aimons notre pays. Nous utilisons quand même nos forces et avec aussi l'aide des autorités en place. Ils sont en train de nous soutenir. Ils nous ont fourni aussi des chaises, des stylos, des rames à papier, le bourgmestre, le maire de la ville aussi.
L'installation des bureaux définitifs des conseillers communaux est prévue au 27 mars prochain. Kalemie, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 30 détenus de la prison centrale de Goma, parmi lesquels deux femmes, ont bénéficié hier d'une libération conditionnelle à la faveur d'un arrêté du ministre de la Justice. Leur relaxation a eu lieu hier après-midi en présence des responsables du bureau provincial de la Commission nationale des droits de l'homme et de la MONUSCO. Explication de Gabriel Ouamenia.
Visage radieux et vêtu encore en tenue pénitentiaire, tous les yeux et les regards rivés sur le directeur de la prison qui annonçait à travers la lecture d'un arrêté ministériel leur relaxation. Séance tenante, ce détenu condamné à 4 ans de prison ne cache pas sa satisfaction après sa libération. Il promet de ne plus retomber dans les actes délictueux.
Oui, je suis vraiment très content puisque j'ai été condamné 4 ans dans la prison. Alors, je suis très content de recouvrer ma liberté. Je suis maintenant libre vraiment, que Dieu soit béni.
De son côté, le directeur de la prison leur a dit qu'il reste toujours et à tout instant justiciable devant toutes les juridictions du pays une fois qu'ils commettent des actes répréhensibles. Serge Kiero.
Au fait, au total, nous avons libéré 30 détenus, parmi lesquels deux femmes, qui répondaient donc aux critères fixés par le code pénal, fixé par la loi portant principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire.
Notons que cette activité de routine contribue également au désengorgement des maisons carcérales à travers les pays, a indiqué le directeur de la prison Mounzenze, qui compte actuellement plus de 3000 détenus. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le secrétaire général des Nations Unies a appelé ce jeudi après-midi les belligérants au Soudan à un cessez-le-feu en vue de respecter les valeurs du mois sacré pour les musulmans, alors que la crise humanitaire actuelle atteint des proportions colossales. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, Antonio Guterres a indiqué qu'à l'approche du mois sacré du Ramadan, toutes les parties au conflit devraient honorer les valeurs en cessant les hostilités. Et puis la délégation du Hamas venue pour des discussions officielles en vue d'une trêve dans la bande de Gaza a quitté le Caire ce jeudi après-midi. Les négociations entre le Hamas, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis d'Amérique doivent reprendre la semaine prochaine afin d'obtenir finalement une trêve dans la guerre déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre dernier.
L'invité.
Notre invité, ce Pacifique Keta Oupar, cet opérateur économique affirme que plus de 2000 tonnes de café produits dans les territoires de Mahagi et de Djougou sortent du pays frauduleusement pour l'Ouganda. Il pense que c'est la conséquence du manque d'une unité de traitement et de transformation du café dans cette région. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Pacifique Keta Oupar, bonjour.
Bonjour Martial.
Quel est l'état de lieu de la culture et la commercialisation des cafés dans les territoires de Magui et une partie de Djougou dans la province de l'Ituri?
Magui de café ici, parce que chaque année, à chaque campagne de café qui va du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, nous avons une capacité presque de entre 10 000 et 15 000 tonnes de café, mais malheureusement qui ne profite pas à la population, parce que le café, avant qu'elle soit exportée ou bien qu'elle soit traitée sur le plan local, il faudra bien qu'on ait des usines, qu'on ait des unités de traitement et aussi des transformations pour qu'on arrive à valoriser notre café. Sinon, dans les cas contraires, le café sort en fraude en tant que café humide et c'est sans valeur marchande. Et c'est comme ça que pratiquement nous essayons un peu de voir un peu comment est-ce que nous pouvons accompagner ce secteur qui prend presque le trois quarts de la population de Magui.
En fait, je te mets à combien d'hectares où sont cultivés les cafés au niveau de Magui?
En fait, ici, ce n'est pas le système de grandes plantations ici. Ici, c'est le système de famille. Donc, on a de petits champs familiales. Nous construisons l'usine. Mais à côté, il y a des stations de traitement de café, donc les CTC comme on les appelle, où pratiquement on va commencer à regrouper les petits producteurs et après, à la fin, ça pourrait donner une grande production. Parce que ici, la culture de café est rentrée comment ? La population se retrouve dans une situation telle que c'est une valeur refuge, où s'il faut étudier, faire étudier les enfants, s'il faut payer les soins médicaux, s'il faut intervenir à des problèmes de besoins de famille, c'est souvent le café qui, la production de café familial. On a quelques pieds tout autour de la maison, devant ou derrière. Et c'est ça, c'est qui permet de faire maintenant le gros de quoi de la production que nous retrouvons maintenant dans le sur le territoire de Magui et une partie du territoire de Ndjougou.
Alors, qu'est-ce qui fait à ce que les cafés cultivés au niveau de la province de l'Ituri, notamment dans le territoire de Magui et une partie du territoire de Ndjougou, ne profitent pas à la République démocratique du Congo en général et à l'Ituri en particulier?
Bon, parce que c'est un secteur vers les années 70-80 qui était porteur de quoi de richesse. Mais je crois l'État a abandonné un peu ces secteurs et pratiquement nous sommes retrouvés dans une situation parce que pour faire la production par exemple du café, il faut qu'il y ait un accompagnement. Et cet accompagnement va sur quatre points. Le premier point, c'est d'abord assainir le climat des affaires. Il y a trop de taxes dans l'exportation. Parce que je me rappelle quand j'étais vice-gouverneur, une fois j'ai posé la question, j'ai fait un peu le constat, on était à 13 à 14% de taxes pour l'exportation du café. Et quand je regardais chez le voisin, les Ougandais, ils étaient à 1% de taxes à l'exportation. Alors c'est comme ça que vous avez tous les acheteurs du café se trouvent de l'autre côté de frontière. Ils louent des entrepôts, ils achètent des motos à nos frères et le commerce maintenant se passe. Ils les font avec plusieurs motos, plusieurs quoi, et puis après, il reconstitue le stock de l'autre côté. Vous retrouvez quelqu'un par jour, il a 10, 20 tonnes de café qu'il a et entre-temps, ça ne passe pas par la voie légale. Deuxièmement, on ne peut pas faire l'agriculture sans crédit agricole. On n'a aucune banque de crédit agricole. Donc, ce qui fait que si vous devez, voilà, c'est vos propres moyens ou si vous recourez à des banques commerciales, le taux d'intérêt vont des 18% à 36% jusque dans le microcrédit. Mais par contre, quand vous devez avoir un crédit agricole, il va de 3 à 5% pour les crédits agricoles qui peut accompagner un peu le paysan. Troisièmement, on peut pas faire l'agriculture sans recherche. Vous avez vu ce qui a été à Kisangani. Ici, à Nyoka, nous avons l'INERA, mais sont à l'abandon. Nous devons accompagner la production. Et la production, nous devons l'accompagner comment? Nous devons avoir des moniteurs agricoles et nous devons avoir des agronomes des collectivités.
Alors, plusieurs difficultés soulevées dans ces domaines de culture et commercialisation des cafés. Vous, comme opérateur économique évoluant dans ces secteurs, est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez déjà montées ici sur place à Magui pour que les cafés cultivés et commercialisés au niveau de Magui et Ndjougou profitent à la RDC?
Si on a le café et qu'on n'a pas une unité de quoi de transformation, pratiquement, ce café n'a pas de valeur. Et ça profite à la fraude.
Pacifique Keta Oupar, je vous remercie.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, Pacifique Keta Oupar. Cet opérateur économique évoluant dans le secteur du café a été interviewé par Martial Kizabiamungu. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.